Gloire à Dieu. Le parcours qu'on a fait depuis le début du développement de cette thématique nous a permis de regarder beaucoup de choses. Il y a mercredi dernier, par exemple, on venait de terminer quelques gestes concrets de la part du croyant ou du futur croyant qui détermine son acte de repentance, qui définit son acte de repentance. C'est sur ça dont on a terminé pendant 2 mercredis. Qu'est-ce que celui qui dit, celle qui dit qu'il se repent, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il est appelé à faire? Qu'est-ce que vous aviez fait, vous, quand vous vous êtes repenti, quand vous êtes venu au Seigneur? Qu'est-ce que vous aviez fait? On a invoqué pour mercredi dernier et le mercredi passé en haut. On avait évoqué trois passages qui définissent l'acte de conversion, de repentance pour le salut. Mais avant ces passages, il y en avait d'autres qu'on avait vus. Il y en avait d'autres qu'on avait vus avant. Mercredi passé en haut et mercredi dernier. On a regardé Romains 10, verset 9 à 13. On a regardé Jean 1er, verset 12. Et on a regardé Apocalypse 3, verset 19, qui dit ce qu'on fait quand on se repent. Mais avant ces 2 mercredis-là, presque tout au début de l'étude, et j'avais dit qu'on y reviendrait encore, on avait regardé d'autres passages bibliques qui présentent, qui définissent des gestes concrets qui impliquent la signification de la repentance pour la vie éternelle, pour le salut. Commençons par les passages les plus récents pour vous remettre en contexte avant qu'on aborde la matière du jour. Pareil, commençons avec Romains chapitre 10 qui dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Donc, se repentir, c'est confesser de sa bouche le Seigneur Jésus. Et pas seulement. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je me suis étendu amplement là-dessus. Se repentir, c'est confesser Christ de sa bouche et croire dans son cœur qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour ton péché et qu'il est ressuscité pour votre justification, votre vie éternelle. Une déclaration sincère de cœur, une croyance. On a vu aussi par la même occasion que se repentir, mais c'est invoquer le nom du Seigneur pour son salut. Romains chapitre 10, verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et à Jean 1er, verset 12, décrit aussi un geste concret pour parler de la repentance. C'est le fait de recevoir Christ. Mais à tous ceux qui croient qu'ils l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu a donné, la parole incarnée de Dieu, le Christ lui-même, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Se repentir, eh bien, c'est quoi? Au nom de Jésus. C'est recevoir Jésus. Ou du moins, demander à recevoir Jésus-Christ. Demander à Christ de le recevoir. L'inviter à venir dans son cœur. C'est un acte de repentance, ça. Et finalement, Apocalypse 3, et à verset 19 à 20, qui nous parle de gestes concrets qui définissent l'acte de repentance pour le salut. Il y a, quand Paul va dire, il y a, aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, de sa vie, j'entrerai chez lui. Voilà. Donc, se repentir signifie ouvrir son cœur à Jésus pour que lui rentre dans ce cœur-là. Alors, et à, voilà pour les deux derniers mercredis, ce qu'on avait considéré comme geste concret de la part, eh bien, de l'homme, ce que l'homme doit faire pour recevoir le salut ou bien la vie éternelle. Alors, c'est important de ne pas oublier cette instruction parce que elle va vous être utile pour la suite, non seulement de la leçon, de l'enseignement, du développement de la thématique, mais aussi ça va vous être utile, eh bien, pour votre ministère d'évangélisation, parce que vous êtes appelé à évangéliser comme votre pasteur. Donc, avec ces éléments-là, on est en train de vous équiper pour l'évangélisation aussi. Et c'est important, je vous l'avais dit, on ne met pas en doute votre salut, votre conversion, votre vie éternelle, votre justification en animant cette étude dans la congrégation. Non, l'idée, c'est de vous faire réfléchir sur l'amour de Dieu, sur ce que Dieu a fait pour toi, ce qui s'est passé dans ta vie, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, et aussi de vous équiper pour le service. C'est ça l'idée, c'est de vous armer, de vous équiper, de vous outiller pour le service. Il y a un passage que je t'ai considéré avec vous, et c'était Jérémie 3, verset 13, qui définit des gestes concrets de la part de celui qui se repent. Il y a où Dieu dit au peuple d'Israël par le truchement du prophète Jérémie, reconnais seulement ton iniquité. C'est aussi vrai, le moi à vos péchés, dans le salut même, alors qu'on est déjà dans le salut. Les n'a pas repenti, c'est un bagage à nous fait tout. Même ne dit pas pour le salut tel qu'on l'a connu au début, le salut initial, mais pour le salut de tous les jours, pour la communion, pour le rétablissement de la communion avec Dieu. C'est la même chose qu'on fait aussi, hein. C'est revenir à Dieu aussi. Pas pour la vie éternelle qu'on a déjà, mais pour la joie du salut, pour recouvrer la joie du salut. Parce qu'à partir du moment où nous péchons, nous perdons la communion avec Dieu. N'en parlons pas de péché pratique. Hein? Donc, c'est même bagarre. Nous faisons reconnaître seulement ton iniquité, dit Dieu à son peuple. Reconnaître que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Hein? Reconnais que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Revenez, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel. Donc, la repentance suppose de reconnaître son iniquité, hein, reconnaître son infidélité, reconnaître l'abandon de Dieu qu'on a fait et revenir à Dieu. Alors, voilà. Maintenant, pour ce soir, t'as regardé avec nous ce qui se passe du côté de Dieu quand un pécheur se repent. Quel est le plan de Dieu sur la repentance du pécheur? Quel est le plan de Dieu sur la vie du pécheur repentant? Quand on étudie les caractéristiques de la repentance, hein, Dieu est déjà à l'œuvre, hein, dans ces caractéristiques-là. C'est Dieu qui a amené à ces caractéristiques-là. Je ne vais pas les renommer, on a déjà considéré. S'il y en a qui les oublient, on avait juste à jeter un coup d'œil sur le site internet de la congrégation. Cela ne veut pas dire que Dieu a été absent. Quand moi je le reçois dans mon cœur, quand je reviens à lui, ce que je vais dire là ne signifie pas que Dieu était absent. Quand j'ai confessé le Christ, quand j'ai invoqué son nom, quand je le confesse de ma bouche, ou que je crois de tout mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Cela ne veut pas dire que Dieu était absent, au contraire. Dieu est dans ma repentance. On l'a vu quand j'étudiais les bénédictions de l'Église. Dieu est à l'œuvre dans ma repentance, en quelque sorte, dès avant la fondation du monde, puisqu'il m'a choisi pour la vie éternelle. OK? Ce que je veux dire ne veut pas dire que, ou la manière dont je formule mes propos au commencement, en introduction, ne veut pas dire que Dieu était absent dans les autres aspects. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que Dieu est à l'œuvre dans tous les aspects de la vie du croyant, depuis sa repentance pour le salut, en obtenant le salut, et après sa repentance et son salut, Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu est à la pendant, avant, pendant et après la repentance. C'est un peu ce que nous allons regarder. En sorte que, il y a gagné en pile considération, en pile bagage que nous parlons là, qui rencontrait parfaitement en pile l'autre que nous t'ai dit, que moi t'ai dit lorsque moi t'ai parlé des caractéristiques de la vraie repentance. Hein? Mais nous allons regarder d'une manière spécifique à Dieu lui-même. Hein? De la même manière qu'on regardait les effets, hein, de la repentance du côté de l'homme, hein, ce qu'on pouvait voir dans la vie de quelqu'un qui s'est repenti pour la vie éternelle et qui, hein, on se rappelle, eh bien, on va voir ça aussi du côté des hommes, du côté de Dieu, comment ça se passe, ce que Dieu a fait, et comment Dieu joue sa partition. Hein? Mais cela ne veut pas dire qu'il n'était jamais là. Il a toujours été là au début du processus, avant même le déclenchement du processus de repentance pour le salut et après, comme je le dis. Mais nous allons regarder, on fait semblant d'une séparation. Hein? On fait comme s'il y avait une séparation pour mieux vous montrer le plan de Dieu, pour mieux vous montrer, vous expliquer le sens des choses. C'est ça que je vais faire là, capable de mieux comprendre lorsque me songez des bien-aimés qui te posent des questions. Hein? Et avant même que je te pose des questions, je t'ai parlé de ça. Moi, je t'ai dit que tout ça, moi, raconté dans les effets de la repentance, dans les caractéristiques de la repentance, c'est un long processus. Hein? Hein? Le salut est une fois pour toutes, cela dit. Mais il y a de ces promesses-là que Dieu fait avec le salut, qui au même point le réaliser jour après jour, hein, de la marche chrétienne, hein, au fur et à mesure de la marche chrétienne. C'est ça que je dis là, qu'il faut comprendre ça mieux. L'homme te dit que repentance en lui fait une fois pour toutes, lui mène le salut une fois pour toutes, mais il y a en même temps son processus. C'est-à-dire que même quand tu m'as accepté Christ là, moi sanctifié positionnellement, et puis m'a appelé à sanctifier chaque jour. Même côté à me régénérer, qu'elle me changeait, les services font miracle dans la vie, moi, et puis qu'elle m'a appelé à changer, à rabolir chaque jour plus. Voilà, c'est un peu de ça, nous parlons regarder et je dis à là. Et pour moi faire ça, il y en a un passage que le Saint-Esprit de Dieu mettait sous cœur, moi, mais c'est Ézéchiel 36, on va lire seulement versets 24 à 28. Pour pouvoir comprendre ça. Et comment cela se passe du côté de Dieu à la repentance. Hein? Comment cela fonctionne du côté de Dieu. On lit le passage d'abord. Ézéchiel 36, verset 24. Je vous laisse le temps de chercher, de trouver le passage avant que je puisse démarrer. Ézéchiel 36, verset 24 à 28. Voici ce qu'il y a. Le passage, le passage dit, c'est Dieu qui parle à son peuple par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez saints, vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Gloire à notre Dieu. Ézéchiel 36, versets 24 à 28. Tout en s'adressant à Israël, son peuple, Dieu, à travers ce passage de l'Écriture, nous explique, hein, bon Dieu explique et moi-même avec, en tout cas à tous ceux qui veulent, qui peuvent comprendre. Dieu, expliquez-nous la doctrine de la régénération et la doctrine de la conversion. Dieu définit, Dieu décrit la doctrine de la conversion. Il décrit la doctrine de la régénération. Voilà ce que ça veut dire, se convertir à Christ, à l'Évangile. La conversion authentique, d'après ce passage, c'est le résultat d'une œuvre surnaturelle venant directement de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Cet acte surnaturel opéré par Dieu à travers le Saint-Esprit de Dieu est de changer le cœur d'une personne. Cet acte souverain, cette action surnaturelle, spirituelle, divine, qui définit la conversion, consiste de la part de Dieu à changer la nature même d'une personne. Pas oublié, non? C'est l'un des meilleurs textes de l'Écriture qui définissent la conversion. La régénération, il y en a d'autres. Et c'est l'un des meilleurs. Quand je dis meilleur, c'est en termes de clarté, en termes d'abondance d'informations. Hein? C'est ça, moi, les meilleurs. La première grande vérité que nous trouvons dans ce passage, frères et sœurs bien-aimés, c'est que notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Saint d'Israël, est l'auteur par excellence. Oui, c'est le terme. Il est l'auteur exclusif de notre salut. Et en même temps, il est celui qui perfectionnera notre salut au jour le jour. Ça, on en a déjà parlé. Ça, c'est pas nous. Remarquez la certitude avec laquelle notre Dieu parle de ce sujet, conversion, repentance, régénération. Et il y a une tarémé aussi que l'Église là prêtait une attention soutenue au fait que Dieu parle à la première personne du singulier. J'ai compté, ça fait environ 13 fois que le Seigneur de gloire, l'Ancien des Jours, le Puissant de Jacob, utilise le terme je pour parler de ce qu'il fera de vous, de ce qu'il aura fait de vous, de ce qu'il aura fait de moi, et de ce qu'il aura fait de tous ceux qui viennent sincèrement à la repentance pour la vie éternelle. Je vous retirerez d'entre les nations. Ou même l'oratoire, vous avez été retiré d'entre les nations. C'est présent, c'est passé, c'est présent, c'est futur. Gloire à Dieu. Et c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est accompli, c'est en train d'être accompli, et ce sera accompli. Voilà, ces subtilités-là que certaines personnes ne comprennent pas. Je vous rassemblerai de tous les pays. Deuxième jeu. Je vous ramènerai dans votre pays. Quatrième jeu. Je répandrai. Il y a l'autorité, il y a la souveraineté. Hein? Il y a une affirmation de pouvoir, de souveraineté, d'autorité. Dieu est l'auteur de votre vie éternelle. Je hein, répandrai sur vous. Vous voyez ça va passer là? Tu le reçois, tu ouvres ton cœur à lui, tu confesses de ta bouche son fils, et lui, il agira. Je, voilà. Voilà la relation. Quand on parle du côté des hommes, du côté de Dieu, mais en réalité, tout est du côté de Dieu. Quand même, la foi, c'est Dieu qui la donne. Et c'est pourquoi, pour comprendre, on fait comme s'il y avait une décantation. Mais oui, il y a la responsabilité humaine aussi là-dedans. Mais oui, il y a la responsabilité humaine là-dedans. C'est ça qu'il faut comprendre. Le processus repentance, salut. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je, c'est Dieu qui parle. Et je mettrai en vous un esprit nouveau, gloire à Dieu. J'ôterai, c'est pas fini, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est souverain, c'est déterminé, c'est établi, c'est le plan. Je mettrai mon esprit en vous. Et enfin, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Voilà ce que Dieu va faire. C'est ça, m'te là, ou te poser question, m'te répondre. Tout ça, le pas fait à la seconde de ta conversion. C'est un processus. Mais oui, ou bien la vie éternelle, mais oui, l'entraînant comme un côté. Hein. Mais tout ça, l'annoncer là, c'est au fur et à mesure, soit par un chemin sombre et glissant, Dieu va diriger ses chers enfants. Par les épreuves amères, par les épreuves douloureuses, tout ça, par sa parole, par l'étude biblique, par enseignement, par expérience qu'on fait avec lui. On va le faire, aspect processus-là, continuité. Hein? Et ça, nous t'est pas allé. Nous t'est donné à venir ou à nous venir, vous, par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, autant de lectures, moi, décanter ce passage-là avec vous, même si ce n'est pas terminé, pour réaliser que pas gagné l'ombre d'un doute. Il n'y a aucune ombre d'incertitude dans les affirmations de notre Dieu à l'effet que c'est lui qui est à l'œuvre dans la vie de celui qui se repent. Frères et sœurs. Dieu ne parle pas ici, vous l'aurez constaté, de ce qu'il ferait, non, de qui ça le tape fait, s'il était capable, non, si moi avant nous t'ai coopéré avec lui, non. Dieu ne parle pas de la coopération de quiconque, de l'autorisation de quiconque, il est péremptoire. Je, un, deux, trois, quatre, je. Dieu parle comme celui qui fait tout ce qu'il veut, sans aide ni conseil, dans la transformation de ses enfants, dans la régénération de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Il agit, il opère sa volonté d'après le conseil de sa volonté. Ah, c'est important. Dieu annonce que c'est lui qui va faire ces choses dans la vie de chaque personne repentante. Mais également, il garantit le résultat. Il dit cela se passera, cela arrivera. Il n'y aura pas d'obstacle à ce qu'il annonce, à la transformation du croyant, à la régénération du croyant, à la sanctification du croyant. Il n'y a pas d'obstacle. Vous serez purifiés. Gloire à notre Dieu. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, dit Dieu. Je ferai en sorte que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Pour nous, c'est le royaume. Hein? Pour nous, c'est le royaume. On parlait ça déjà. Pour nous, c'est le royaume. Pour Israël, c'est Canaan. Mais pour l'Église, pour vous et moi, pour les rachetés d'Israël même, c'est le royaume de Dieu. C'est la présence de Dieu, c'est ça le pays. C'est la famille de Dieu. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu, hein, envers et contre tous. Dieu énonce un décret. Dieu parle de sa puissance dans le salut de son Église, dans l'établissement de son Église, dans la croissance, la purification de son Église, dans la transformation de son Église, dans la conversion de son Église. C'est de ça qu'on parle ici. Sans faillir, sans complexe, sans entrave, souverainement, le Dieu que nous servons, frères et sœurs, il a recréé ce qu'il a appelé. Il recrée ce qu'il appelle. Il vous a recréé, il vous recrée encore et il vous recréera pour toujours, un jour. Voilà de quoi on parle quand on parle du mystère du salut. Gloire à notre Dieu. Dieu purifie ce qu'il a recréé. Dieu habite ce qu'il a purifié. Et ce en qui Dieu habite, c'est-à-dire ce qu'il a purifié, son Église, chacun de ses enfants individuellement et son Église collectivement, il a la capacité, il a la sagesse, il a l'amour, il a le pouvoir, il a l'autorité de les faire marcher dans ses voies. Il a la capacité de les rendre soucieux et capable d'observer ses ordonnances. Ah! Ah! Aux grandes dames de l'ennemi. Aux grandes dames, à la déception de l'ennemi. L'ennemi n'aimerait pas nous voir obéissants. Mais Dieu est capable de nous rendre obéissants. À la déception de l'ennemi. En sorte que, frères et sœurs, nous pouvons redire ce soir, vous et moi, avec l'apôtre Paul, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Gloire à Dieu. Tête ça, vous comprenez. Ce n'est pas seulement par rapport à mon cap persécuté physiquement. Vous voilà. Vous là pour victoire spirituelle surtout. Pour nous surtout. En raison de ce que Dieu a dit dans Ézéchiel 36, verset 24 à 28, Paul a raison de dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le fait est que, frères et sœurs, mes bien-aimés, le Dieu fort et grand, le Dieu sage, notre berger, qui a commencé en nous cette bonne œuvre de salut, de conversion, de régénération, de purification, de sensibilisation à la vie nouvelle, il est capable de perfectionner cette œuvre par ses propres moyens. Gloire à notre Dieu. Il y aura, j'en ai déjà parlé, des journées de défaite. Pourquoi pas? Nous ne sommes pas encore entrés dans la perfection de la gloire éternelle.
Il y aura des journées où nous serons à 8 sur 10. Nous allons continuer à prier fort pour une vie de sainteté, de sanctification. Il y aura des chutes. Mais il y aura aussi de grandes victoires. Plus souvent qu'autrement, parce que notre Dieu est capable de nous conformer à l'image de son Fils. Et c'est son projet, c'est son plan. Tout ce que nous sommes là, mais c'est la conformité à l'image de son Fils. Ce passage d'Ézéchiel 34, 36, pardon, versets 24 à 28, mes frères et mes sœurs, est venu nous assurer ce soir à l'effet que le Dieu que nous servons, il a entrepris de se faire, de se forger, de se former, de se créer un peuple nouveau, dont vous et moi, et que par sa puissance, il parviendra à mettre son projet à exécution. De toute façon, il l'a commencé. Tous ceux que Dieu appelle, toutes celles que Dieu appelle, inclus vous et moi, viendront à Dieu. Un numéro un. Numéro deux, ils seront purifiés, transformés, régénérés, sanctifiés. Numéro trois, aucun d'eux ne sera perdu, peu importe les assauts répétés du malin. Par le sang de Jésus-Christ, nous y sommes dans la congrégation de toute façon, hein, au à soi, nous la donne, mais n'a pas la donne dimanche encore si tu veux. Par le sang du Christ, les croyants sont justifiés et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, tel que Dieu l'a promis dans ce texte, les enfants de Dieu sont régénérés, ils sont sanctifiés et dirigés par Dieu. Il est vrai que chacun grandira à son rythme. Vous êtes comme ça, vous sonnez ça? D'un coup, il est dans l'école. D'un coup, le maman papa a des petites lits. Maman papa fait 9 petits mots, mais il va rendre du même côté, même si tu reçois la même éducation. Tout en bas, même grâce papa, maman, qui sont des vrais leaders. Il est vrai que chacun grandira à son rythme, à un rythme différent, dans le corps du Christ, dans la famille de Dieu. Hein? Chacun grandira à un degré différent. Hein? Hein? Certains atteindront la maturité plus vite que d'autres. Hein? Pourquoi ne pas le dire? Certains tireront même de l'arrière quelquefois. Mais au demeurant, par la puissance de Dieu, par la sagesse de Dieu, par l'autorité de Dieu, par la souveraineté de Dieu, par l'amour de Dieu, ils finiront tous, les enfants de Dieu, ça oui, les croyants, oui, les vrais repentis, oui, ils finiront tous par progresser dans leur vocation céleste en démontrant chaque jour, en parole et en action, qu'ils sont de véritables enfants de Dieu. Quelle gloire, quelle grâce, quelle bénédiction, quelle assurance. Frères et sœurs, mes bien-aimés, ce que cela veut dire en clair, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, c'est que la repentance véritable, la conversion biblique réelle, authentique, produira nécessairement son fruit dans la vie de chaque enfant de Dieu. Certains produiront sans fruit. Après 3 ans, 4 ans de conversion, après 10 ans, 20 ans, 40 ans de conversion, après 6 mois de conversion, d'autres produiront 60 fruits, d'autres encore peut-être 30, 20 fruits. Mais un fait demeure certain, frères et sœurs, à savoir que les enfants de Dieu, ceux qui sont réellement sauvés, ceux qui se sont réellement donnés à Jésus, hein, ils seront reconnus à leurs fruits. C'est le Christ qui l'a dit. On a déjà vu ce passage une fois dans les séances passées. Il y va de la nature même de la conversion. La conversion apporte des fruits. Hein? La repentance est comme ça. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un est comme ça. La conversion produit des fruits. Ceux qui sont justifiés par la foi seule en Jésus-Christ, eh bien, ils sont devenus l'ouvrage de Dieu et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'il les pratique, dit Paul en Éphésiens 2, verset 10. Par contre, combien de fois nous gardons verset ça déjà depuis que la série a commencé? Dieu le veut ainsi. Gloire à Dieu. N'oubliez pas, la conversion authentique amène le salut, la repentance authentique suppose du côté de Dieu la séparation d'avec le monde. La purification de celui qui se convertit à Dieu, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, du côté de Dieu. À présent, nous allons dire deux mots sur quelque chose de très important. Nous allons dire deux mots sur l'un des plus puissants moyens que Dieu utilise pour atteindre ces objectifs-là qu'il vient de nommer en effet en Ézéchiel chapitre 36, verset 24 à 28. Nous allons voir un des plus puissants moyens que Dieu utilise pour y parvenir. Bien sûr, il y a sa parole. Bien sûr, il y a la prière. Bien sûr, il y a la communion fraternelle. Bien sûr, il y a la persévérance à l'église. Bien sûr, il y a l'étude biblique. Bien sûr, il y a tout ça. Tous ces moyens que Dieu utilise pour arriver à ça où elle parlait là. Qui pourrait le faire que transformation chrétienne, sanctification progressive chrétienne, soit affaire de temps. Et son bagage qui fait au jour le jour. Donc, nous régler bagage ça. C'est réglé maintenant dans l'église là, en tout cas, si ce n'était pas réglé déjà. OK? Mais ça va le dire, la journée où je me tourne vers Christ, je lui demande de rentrer dans ma vie, que ça lui m'attende pour l'accomplir. Non. Me sauver même côté, pas oublier, non. Me sauver même côté, puis me régénérer même côté. Cet esprit de Dieu habite même côté. Mais ta transformation, moi, lui-même, son processus. Et ça m'a donné là. Et même régénération pour aller au processus. Pas oublier là. Je voulais ça clair pour vous comme vérité. Son vérité essentielle pour la vie chrétienne. Ta purification, les positionnelles et puis les expérientielles. Ah, je viens de terminer. Les positionnelles, sanctification, transformation, les positionnelles et puis les expérientielles, c'est-à-dire les baser sur l'expérience tous les jours avec mon Dieu. C'est pourquoi on en a parlé, toi et moi. C'est pourquoi on parle de croissance spirituelle. On dit tout ça déjà. Vie spirituelle ou née, vie spirituelle ou grandie. Même j'ai dit tout là, vie physique ou née, puis grandie. Mais c'est de ça qu'on parlait là, en fait. Nous pouvons regarder, il y en a plus puissants outils, moyens, instruments. Bon Dieu gagne en main ou bien les utiliser pour notre transformation jour après jour. Il s'agit de la discipline. La discipline. Et elle me parlait de discipline, on va parler de discipline de la prière. Bien sûr, mais on m'a parlé de châtiment. On m'a parlé d'épreuves. On m'a parlé de problèmes. Que nous avons parlé. Pas la discipline de la prière. Pas la discipline de la communion fraternelle. C'est-à-dire, ce n'est pas la discipline ecclésiale. C'est discipline au sens de épreuves, problèmes et châtiment aussi. Frères et sœurs, le Dieu que nous servons, nous le savons tous fort bien, c'est à la fois un Dieu aimant et sage. Hein? Pour ce Dieu-là, plus grand bien, moi-même avec vous, hein? Plus grand bien, l'été qu'a fait moi-même avec vous, c'est faire nous sembler avec Jésus-Christ.
Vous voulez comme ça?
C'est-à-dire, ces transformations. Et Dieu s'applique à faire cela. J'en saute 10 à l'heure là, en Ézéchiel 36. Hein? Dieu travaille constamment, nuit et jour, à cela, à nous transformer, à nous conformer à l'image de son Fils. Le Nouveau Testament est très clair là-dessus. Et pour bon Dieu capable de faire ça, frères et sœurs, bon Dieu utilisait des moyens que lui croit qui juste dans sa sagesse. Il utilisait des moyens que lui croit qui nécessaire. Et parmi ces moyens-là, la correction, la discipline, le châtiment. Hein? Parfois, la discipline de la correction est légère. Un petit coup de fouet, bien légère. D'autres fois, elle est très sévère de la part de Dieu. Mais que la correction, la discipline soit légère ou sévère, dans un cas comme dans l'autre, bon Dieu utilisait toujours la discipline, le châtiment, pas la punition, non? Bah, dit punition. Le châtiment avec tendresse, avec douceur, avec amour, et cela pour le plus grand bien de son peuple, de chacun de ses enfants. Le fait est que le Dieu que nous servons nous aime trop, vous et moi, pour nous laisser vivre sans discipline, sans correction. Il est trop sage, il est trop aimant pour nous permettre de rester tels que nous sommes lorsque nous lui sommes infidèles, lorsque nous nous écartons de sa voie qu'il a tracée pour nous. Il est trop bon pour faire cela. Hein? Il est trop bon pour faire cela. Les papas, les mamans qui ne disciplinent pas leurs enfants ne sont pas les meilleures mamans, ne sont pas les meilleurs papas. Au compte, ça a bien passé. Moi, c'est des meilleures mamans, c'est des meilleurs papas. Au compte, ça a bien passé. Mais c'est aussi vrai pour mon Dieu. Alors, frères et sœurs bien-aimés, vous et moi, nous devons nous attendre dans la marche chrétienne. Oh, frères et sœurs, nous devons nous attendre dans la marche chrétienne à ce que la providence de Dieu nous expose parfois à ce que providence, mon Dieu, expose-nous parfois à des souffrances. Si bon Dieu, dans sagesse, dans justice, dans amour, lui estime que souffrance, ça, selon préscience éternelle, c'est une façon d'emmener pour moi recevoir ça là pour tout Paul Relais, pour moi gagner ça pour tout Paul Relais, un poids éternel de gloire au-delà de toute mesure là, au-delà de toute comparaison. Parfois, c'est par épreuve que je suis capable de recevoir ce poids éternel de gloire. Ah. Voilà, réduit à soi là. Nous, ouais, il y a une illustration parfaite de cette vérité évangélique dans la vie de Jacob, le patriarche Jacob. Dans Malachie, dans la parole que l'Éternel Dieu adresse au peuple d'Israël en Malachie chapitre 1er, versets 2b et 3. Non, l'Éternel Dieu qui font déclaration, frères et sœurs. Regardez ça, bon Dieu dit. Regardez ça, bon Dieu dit. Malachie chapitre 1er. On va presser dans le passage là, avec l'étude là. On voulait prendre ça moins. Regardez. Oracle, Malachie 1er, verset 1er et 3. Mais on va faire verset 1er à 3 pour te mettre en contexte. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Regardez ça, bon Dieu dit. Il a aimé Jacob. Et il a eu de la haine pour Esaïe. Bon, on connaît bon Dieu pas Caraïbes, mais espérez que vous apprenez déjà que le bon Dieu dit ça, c'est Caraïbes. J'en connais en français à parler là. Hein? On parler ça. Peut-être que vous parlez ça dans la congrégation. Hein? Et parce que ça va conseiller, non, mais quand même. On peut et Caraïbes, on connaît. Hein? Dans l'hébreu, c'est Caraïbes, nous gagnons. Okay? Dans la langue originale, nous n'avons pas gagné Caraïbes. Donc, j'ai plutôt préféré, ok? J'ai préféré Jacob à Isaïe, ok? Donc, il y a l'idée de préférence, ok? Choisi. C'est choisi qui vient là, ok? J'ai choisi Jacob. Je n'ai pas choisi Isaïe. C'est ça que ça veut dire. T'as oublié ça. C'est ça qu'il veut dire en hébreu ici, là. Mais, passons. Revenons à nos moutons. Au dernier sermon de Dieu, il choisit Jacob. Il n'a pas choisi Isaïe. À l'époque de cette déclaration, frères et sœurs, Israël t'a souffri en pile. OK? Israël t'a souffri en pile. Israël s'est dérivé de Israël qui c'est Jacob. OK? Israël t'a souffri en pile. Et Israël, c'est descendant Jacob. Pas oublié, non? Israël, t'es en poids. Israël, t'es dans le doute. Israël, t'es dans l'incertitude. Israël, t'es dans l'incompréhension. Israël, t'es découragé. Et Israël, t'as demandé tête li. Est-ce que bon Dieu était fidèle vraiment à l'alliance que mon Dieu t'est passé avec papa Yo et plus tard avec Yo même? Sa problème nan teye, ki te cause souffrance la. Dieu te délivré Israël de la captivité kote l te ale, mwen rappele ou ke l te ale nan captivité, par le châtiment divin. Hein? Il a été en captivité parce que Dieu l'a discipliné. Dieu l'a voulu le discipliner et le châtier, comme on connaît. Mais, au bout d'un certain temps, Dieu a ramené son peuple dans la terre promise. Cependant, la discipline de Dieu n'avait pas pris fin encore dans la terre promise. Même si l'exil l'a fini, le peuple l'a ramené, Dieu l'a ramené de l'exil, mais la discipline de Dieu pour qu'on finisse appliquée. Et c'est pour ça, le peuple a en bas sanction, bon Dieu, en bas discipline, bon Dieu, en bas châtiment, bon Dieu, même dans la terre promise, l'a questionné fidélité, bon Dieu, l'a questionné attachement, bon Dieu, à l'alliance. Et c'est pour que bon Dieu est capable de ramener le peuple là. Hein, sur la bonne voie, retirer tout doute dans la tête, qui fait le mandat qu'il faut elle dit ce qu'elle dit à là. Et tout ça, elle dit dans Malachie. Dieu pral mandé Malachie pour lui amener peuple là à comparer relation que lui-même bon Dieu lui gagne avec Jacob papa yo et Ésaü. Jacob que le choisit et Ésaü lui-même que lui pas choisi. Bon Dieu pral mandé pour comparer. Et en faisant cela, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de dire à son peuple, oui, vous avez été sévèrement discipliné, vous avez été châtié par ma main, par ma sagesse, par ma justice, par mon pouvoir, par mon autorité. Mais c'était pour votre correction, c'était pour votre discipline, c'était pour votre rédemption. En d'autres termes, Malachie te demande pour te rappeler, peuple bon Dieu, à qui t'as touté, que correction, mon Dieu, sanction, mon Dieu, discipline, mon Dieu, ce n'est pas un signe d'infidélité de Dieu à l'alliance. C'est plutôt le contraire qui est vrai. C'est mandat, ça, Malachie, t'es gagné, n'a pas tourné sous lui. Ah, c'est important. Ce n'est pas parce que moi sanctionne, moi châtie, moi discipline, oh. Que moi renie alliance là, c'est le contraire qui est vrai. Dieu est en train de leur dire que c'est normal que nous châtier, c'est normal que nous souffrir parce que nous sommes peuple moins et d'hommes pas peuple moins. C'est Israël qui peuple moins. Je n'ai pas choisi Edom, j'ai choisi Israël. J'ai choisi Jacob, je n'ai pas choisi Esaü. Alors, monde qui petit moins, monde qui vraiment converti, hein? Moun ki vreman gen sauvé ya, moun ki vreman gen la vie éternelle là. Oui, forme disciplinelle. Parce que c'est petit point que lié. Le livre des Proverbes va nous faire la même révélation. Proverbe 3, verset 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. N'a pas campé là, soyez. Hein? Vous avez dit le passage là? Mais c'est pour qu'on finisse. Gloire à notre Dieu. Ah, frères et sœurs, souffrance pas douce, dis-nous ça déjà. Épreuve pas douce, dis-nous ça déjà. Mon connaît? Et pourtant, toute épreuve, toute souffrance, c'est pas châtiment. Hein? M'enseigner ça déjà, nous comptons ça déjà. Hein, pas plus tard que, quoi, il y a deux dimanches, on était là-dedans. Ça va veut dire que toute souffrance, tout épreuve, c'est châtiment, non? C'est sanction, bon Dieu. C'est pas ça que ça veut dire, non? C'est discipline, non? Ça veut dire tout simplement que si je suis vrai converti, si je suis vrai repenti, depuis mon péché, bon Dieu a tapé. Pas pour le jeter, pas pour la vilain, pas pour l'abandonner, pas pour Satan lever dans ses courriers, et puis à fêter, non, non? C'est parce que ça fait partie de transformation moins. Ça fait partie de croissance moins. Ça fait partie de ressemblance, de processus de ressemblance à Christ là. Parce que Dieu, le Christ, l'époux de l'Église, son épouse, s'attend à recevoir une Église sans ride. Si bon Dieu quitte ma courir, fait ça, m'vle, abîme dans l'évangile, abîme, il pas taper moins, mais m'a paraît d'une petite lit qui s'est époux moins. Avec ride, avec tache. Oh, il ne veut pas ça. Que faut-il qu'il fasse? Faut qu'il me châtie? Vous devez quitter Timon fait ça, ou même quand vous regardez moi. Vous devez quitter Timon fait ça, vous voulez? La réponse est non. Bon, là, tout le monde vient gagner un certain âge. Bon, vous ne pouvez pas faire rien encore. Là, on a dégagé avec bon Dieu, mais là, vous avez grandi, vous songez. Si vous avez trois Timon, vous avez petit pour la capsule. On dit le parle, jouer dans flag d'eau, bon, mettons. Et puis, 8 ans, hein, 8 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, pas qu'on imaginez à quel âge encore. Et puis là, jouer dans flag d'eau, le tourner, là, de l'école, il mouillait tout à fait, le mouillait sale. Mais il y a de l'autre Simon avec lui qui va petit tout. Les autres, toi, ils viennent la cala, ils viennent là, ils font passer la cala, ils viennent boire tout, pas qu'on. C'est seulement pour leur, c'est pour leur fonctionner.
C'est pour leur fonctionner. Là, en tout cas, la plupart du temps. C'est pour leur fonctionner. Pour la guider, même tout vos injustes. Là, dit que tout le monde sont là, trop, tout le monde ça, c'est seulement même ou pas problème. Mais il faut qu'on comprenne que c'est parce que justement, petit toi-même, qui fait ses lots sanctionnés, l'autre moment, on va dégager avec eux. Et on connaît. C'est à peu près ça de quoi il s'agit, OK? Les pasteurs, t'as parlé, Dieu prend tous les moyens, y compris la correction, la discipline, le châtiment, pour lui transformer nous, pour lui amener nous à la ressemblance à Christ, pour lui conformer nous à l'image de son Fils. Voilà pour ce soir. Soyez bénis.